Bonsoir. Avant de laisser Bruno Blankmann parler de l'œuvre de l'Ecclésio, je voulais vous informer que, avec Augustin Barbara, à son initiative en tout cas, dans le cadre des rencontres du livre lu avec l'Université permanente et Vent d'Ouest, nous invitons le 6 décembre, le jeudi 6 décembre, à 20h, Denis Salas, qui va venir parler de Albert Camus. Alors peut-être tu peux nous parler de Denis Salas.
Non, c'est-à-dire que on fête le cinquantenaire du prix Nobel attribué à Albert Camus en 57, en décembre 57. C'était pendant la guerre d'Algérie et il a eu ce prix Nobel et la société d'études camusienne organise dans plusieurs villes en France des conférences, des tables rondes. Donc, en tant que membre de cette société d'études camusiennes, on fait venir un des membres, Denis Salas, qui est magistrat, qui a écrit sur Albert Camus. D'ailleurs, pour ceux qui ont le document vert, pour ceux qui ne l'auraient pas, il y en aura d'autres la fois prochaine. Il a écrit La Juste Révolte. C'est un des spécialistes de Camus. Donc, il va nous parler de Camus. Relire Camus, comment Camus avait pris des positions avant même la guerre d'Algérie, dans les années 36 sur la colonisation, et pendant la guerre d'Algérie sur le terrorisme. C'est-à-dire, il se liait là avec Germaine Tillon pour contrer le terrorisme contre les civils et contre la répression aussi de l'armée française. C'est-à-dire qu'il a eu une position qui n'était pas toujours celle de certains intellectuels français à l'époque, qui, certains, ont encouragé le terrorisme du FLN. Voilà. Donc, Denis Salas nous parlera de cela, et je vous invite à y venir. Voilà.
Et peut-être ce qu'il faut rajouter, mais c'est sur les feuilles, c'est que toute son analyse, en fait, part de l'œuvre vraiment, donc, c'est-à-dire qu'il y a un aspect littéraire à son intervention. Et c'est à 20h, oui.
Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on dit souvent qu'un grand écrivain est un peu le fils de son œuvre, et il me semble que l'Ecclésio fait partie de ces grands noms qui sont en quelque sorte comme une émanation directe de ces 45 années de publication. C'est-à-dire ce sont des personnages, et des personnages qui sont à la limite à eux seuls des images, voire des imaginaires. Alors, de l'Ecclésio, il y a aujourd'hui la représentation d'une sorte de grand sage qui serait aussi un grand mage et un grand voyageur. Et ces images ou ces imageries, finalement, occultent un peu le premier l'Ecclésio ou le jeune l'Ecclésio, l'Ecclésio des débuts, en quelque sorte, celui qui a fait irruption en 1963 avec le procès verbal sur la scène littéraire de façon très violente, de façon fracassante, quelques années avant, 5 années très exactement, avant un autre jeune trublion des lettres qui lui aussi, depuis 40 ans, a été en quelque sorte rattrapé par une image et une figure de lui-même, une figure de grand lunaire somnambule, c'est Patrick Modiano. Et il me semble alors que ce qu'il y a d'intéressant, quand on parle à la fois de l'Ecclésio et de Modiano, c'est que finalement, nous sommes face à deux incarnations, je dirais, de ce que sont les écrivains, de ce que représente l'écrivain avec un E majuscule pour beaucoup de personnes. Ce sont des écrivains qui sont non seulement engagés dans un projet littéraire très ambitieux, mais en même temps qui sont extrêmement populaires. Les deux éléments sont choses assez rares, non pas qu'il n'y ait pas de grands écrivains, mais beaucoup finalement sont confrontés à des lecteurs moins importants en nombre que peuvent l'être ces deux-là. Alors ces deux figures d'écrivains, ces deux figures qui sont aussi en quelque sorte des représentations de la conscience, hein, c'était avec un grand C là encore, auquel on attribue une sorte d'éthique, c'est, me semble-t-il, non pas à rebours de ces images qu'il faut essayer de les comprendre et de les présenter, mais peut-être en tentant de les écarter pour revenir à la lettre même de leur parcours et à une caractérisation plus précise de leur œuvre. Alors, de Leclésio, je retiendrai d'abord pour présenter son œuvre cette parole, cette formule qu'il a échangée lors de la parution d'Urania en 2006, avec un journaliste. Il s'est défini comme un homme des lisières. Alors, effectivement, on connaît sa dimension, appelons-la atopique, c'est-à-dire un homme sans lieu fixe, puisqu'il est à la fois à la lisière de la France et de l'Italie. Il est niçois, Nice étant la ville la plus italienne de France, et parce qu'il est aussi un homme qui vit une partie de l'année à la frontière des États-Unis et du Nouveau-Mexique. Donc c'est en quelque sorte un homme d'ici et un homme de l'ailleurs, et il cultive cette image, et son œuvre elle-même est une œuvre atopique. C'est-à-dire que quand on regarde ses premiers ouvrages, ses 10 ou 12 premières années de publication, ce sont des œuvres donc placées sous le signe d'une volonté de transgression, à la fois thématique et esthétique. Ce sont des œuvres portées par une violence certaine. En même temps, ces œuvres de la transgression, ces œuvres de la violence s'inscrivent dans les années 1960 à l'intérieur d'une tradition française qui est, si vous me passez cette expression un petit peu paradoxale, une des traditions de la modernité, c'est-à-dire les avant-gardes, la volonté d'expérimenter, fût-ce parfois de façon très percutante, des formes nouvelles. Donc, d'emblée, c'est une œuvre qui est à la fois une œuvre de la rupture, mais en même temps une œuvre de la rupture qui se rattache à une tradition qui est celle des avant-gardes. Et puis, à partir du milieu des années 1970, il y a une sorte, disons, d'apaisement dans l'écriture de Leclésio, qui n'est pas du tout un virage par rapport à ce qu'il a écrit auparavant, mais qui est une sorte d'évolution. Et là, il va de nouveau, en quelque sorte, se situer dans un entre-deux entre, finalement, une volonté de romanesque, une volonté de raconter des histoires, une volonté de s'approprier tout ce qui est un champ imaginaire qui parle à un maximum de lecteurs, entre autres en jouant très souvent avec la dimension de l'exotisme. Et puis, d'un autre côté, il va y avoir une sorte d'incapacité propre à Leclésio de coller ou d'adhérer aux règles de la littérature romanesque. C'est-à-dire que un roman de Leclésio est toujours suspendu entre récit et méditation et poésie. C'est-à-dire que il y a, même lorsqu'il semble en revenir à des formes narratives plus classiques, disons, il y a toujours une sorte de jeu, une sorte de flottement dans ses ouvrages, y compris les plus récents, entre la part de la narration, la part de l'histoire qu'on raconte, et celle de la suspension. Comme si finalement, suspendre la narration, c'était arrêter le temps, c'était fixer le temps, c'était atteindre à une sorte de principe d'atemporalité que le récit, finalement, ne peut pas atteindre autrement que par ses thèmes, autrement que par des histoires, parce que le propre du récit, c'est d'en passer par une chronologie, c'est de faire s'écouler le temps. Donc, il y a, c'est pour ça que cette formule de Leclésio, l'homme des lisières, me semble aussi correspondre de façon assez, assez étonnante avec sa propre recherche en matière de littérature. Alors, pour présenter son œuvre, bien sûr, il y a, c'est un petit peu une outrecuidance que de prétendre présenter une œuvre aussi vaste en l'espace d'une heure et demie. Donc, on est amené à faire des choix dans cette œuvre. Les miens seront les suivants. J'insisterai peut-être sur la part la moins connu à l'heure actuelle de Leclésio, c'est-à-dire le Leclésio des débuts, ce qui ne veut pas dire que je ne parlerai pas du reste de son œuvre. Le Leclésio des débuts, c'est en gros tout ce qu'il écrit à partir du procès verbal jusque dans le milieu des années 1970. Et autre choix qui sera le mien, l'idée que contrairement à ce qu'on dit parfois pour schématiser la présentation de Leclésio, il n'y a pas deux œuvres dont l'une finalement s'opposerait à l'autre, dont l'une serait placée sous le signe des avant-gardes et l'autre sous le signe d'un retour au roman classique. Il n'y a pas fracture, il n'y a pas dissociation. C'est d'ailleurs contre ce discours-là que je m'étais de façon plus générale insurgé lors de la conférence inaugurale, savoir l'idée qu'au milieu des années 1970 et 1980, un certain nombre d'écrivains en reviendraient à un classicisme de bon aloi et oublieraient leurs écarts de jeunesse, c'est-à-dire les foucades de la modernité. Non, il y a continuité dans les problématiques, dans les thèmes, dans certains dispositifs d'écriture chez Leclésio, entre ses premiers textes et les plus récents, quelles que soient leurs différences, il y a continuité, simplement ce qui change, ce qui varie, c'est en quelque sorte le prisme. C'est-à-dire qu'au début, pendant ces 10-12 premières années de création, le prisme littéraire de Leclésio, c'est en quelque sorte celui de la révolte, une révolte à la fois politique, au sens fort du terme, et une révolte aussi esthétique, avec, à l'intérieur de cette révolte, une sorte de tension assez intéressante, puisque Leclésio fait jouer une modernité contre l'autre. C'est-à-dire que sa révolte politique, j'aurai l'occasion d'y venir, elle porte sur les formes les plus modernes que revêt la civilisation qui se met en place en Europe, en France, à partir des années 1960. Elle est donc une révolte dirigée contre l'apparition de nouvelles relations entre personnes, entre hommes, entre femmes, dans le cadre d'une société, à une époque donnée, la plus récente, la plus moderne. En même temps, pour dénoncer cette civilisation, Leclésio s'inscrit à l'intérieur d'une lignée qui est celle des modernes, des littérateurs modernes, écrivains et poètes. Et ces 10 ou 12 premières années de composition littéraire sont véritablement à comprendre par référence à ce que sont alors les avant-gardes, alors certaines plutôt formalistes, ce qu'on appelle le nouveau roman à l'époque, il y a une très très forte parenté parfois entre certains partis pris de l'Ecclésio et certains partis pris des nouveaux romanciers. D'autres avant-gardes beaucoup plus radicales, comme par exemple le mouvement de la textualité créé en 1960 par toute une joyeuse bande au cœur de laquelle il y a Philippe Solers et Julia Kristeva aussi. Il y a, si vous voulez, une sorte d'inflexion ou de prisme libertaire qui conditionne les débuts de l'Ecclésio et sur un plan politique et sur un plan esthétique. Et puis, le milieu des années 1970 marque une évolution vers ce que je vous proposerais d'appeler une littérature qui va davantage jouer du prisme de la poésie. Alors, la notion est assez vague. Une littérature spéculative, et non plus une littérature libertaire. Une littérature qui, finalement, après avoir essayé sa propre puissance de transgression, après s'être testée elle-même comme force, finalement, de contestation, va interroger un autre pouvoir qui est un pouvoir de connaissance et peut-être aussi un pouvoir de sagesse au sens que les antiques donnaient à ce terme. Non pas une sorte de moralisme bas de gamme, mais une réflexion éthique qui pose la question de conscience par rapport à certaines problématiques qui vont faire irruption dans l'œuvre de l'Ecclésio. Par exemple, la problématique des origines, la problématique de la mémoire, la problématique de l'autre et des autres, qui est déjà là dans ses premiers romans, mais qui est là sous une forme très polémique. La guerre, c'est un des romans qu'il publie dans cette première période. Après, la problématique de l'autre, la problématique de l'altérité, elle va en quelque sorte revêtir une dimension beaucoup plus apaisée, beaucoup plus pacifiée. Et la problématique aussi de l'environnement. Alors, en sachant que pour l'Ecclésio, et contrairement peut-être à certaines lectures schématiques ou caricaturales qu'on fait de son œuvre, un certain nombre de critiques journalistiques qui se sont moqués, qui se sont gaussés de son écologie en la taxant un petit peu d'écologie sentimentale, il me semble que ça va au-delà. Chez l'Ecclésio, le rapport qu'il nous propose au milieu, à ce que l'on n'ose plus appeler la nature, parce que le terme a connu des glissements de sens et des usages un petit peu incertains, le rapport que son œuvre entretient avec l'environnement, c'est un petit peu le rapport que l'on entretient avec une seconde peau. Ce sont toutes les interactions entre l'homme et son milieu décrites finalement sans les dissocier et sans placer l'entité humaine au centre de cet environnement, mais en essayant de transmettre, non seulement par les histoires qu'il raconte, mais aussi par une écriture qui va se faire parfois une écriture très litanique, très envoûtante, très musicale, une sorte de symbiose. Ces problématiques-là, il les aborde dans la seconde partie de son œuvre au travers d'un support privilégié qui est le support mythique. Alors, il y a le recours, si vous voulez, à la forme du mythe comme une sorte de guide pour l'écriture romanesque. qui permettrait, hein, cette écriture, de polariser ces différentes problématiques et d'inventer ce que l'on peut appeler ce projet ou cette littérature spéculative, qui poursuit donc ce que la littérature libertaire, hein, sa première période, avait en quelque sorte lancé, mais d'une toute autre façon, d'une toute autre manière, en se renouvelant. Alors, ce sont ces deux phases saisies dans leur prolongement, sur lesquelles j'aimerais m'attarder quelque peu. Alors, en commençant par ces débuts en littérature, alors je disais tout à l'heure des débuts fracassants, des débuts détonnants, ce que d'emblée Le Clésio va chercher à dénoncer, c'est ce qui s'apparente pour lui à une folie du monde moderne, une sorte de pathologie de la civilisation des années 1960, pathologie qui se déplace sur les êtres qui constituent cette société. Les premiers ouvrages de Le Clésio, alors je pense par exemple au Procès verbal, je pense au Livre des fuites, je pense également à une trilogie, la trilogie des années 70, donc La guerre, publiée en 70, Les géants, publié en 1973, et une œuvre un petit peu intermédiaire, qui est un petit peu l'œuvre de transition, Voyage de l'autre côté, publié en 1975. Alors, dans ces romans-là, le type de personnage, si l'on peut appeler cela, on va y venir encore sous ce terme, le type de personnage que nous présente Le Clésio, ce sont des personnages malades de leur société. Ce sont des personnages qui, pour parler comme un illustre prédécesseur de l'écrivain, sont confrontés à une sorte de nausée face au monde qui est le leur. Alors, une nausée, une maladie qui, sur le plan de l'action romanesque, si tant est qu'on puisse encore parler d'action, va s'exprimer de deux façons dans les ouvrages. D'une part, la fuite. Les personnages de Le Clésio sont des êtres de fuite, sont des instables, sont des espèces de persécutés migrateurs qui ne cessent de passer d'un lieu à l'autre de façon vertigineuse. Il y a, si vous voulez, ce que, à peu près à la même époque, Derrida appelle une sorte de pulsion de déracinement qui anime ces personnages. Alors, la référence à Derrida, on la retrouvera tout à l'heure, elle n'est pas anodine du tout. C'est une sorte de bain de modernité littéraire et philosophique qui est celle des années 60, des jeunes penseurs, des jeunes écrivains qui s'affirment et qui s'affirment en faisant bouger un certain nombre d'automatismes intellectuels et esthétiques. Alors, ça c'est la première ligne romanesque, la fuite, et puis il y en a une autre, beaucoup plus radicale, qui est l'insurrection de ces personnages, une insurrection radicale qui s'exprime finalement sous la forme du crime au sens large. Ce peut être un viol, ce peut être un meurtre, ce peut être une sorte de parcours qui s'achemine vers la folie, comme dans le procès verbal. Devenir criminel, pour les personnages que Le Clésio met en scène, c'est en quelque sorte prouver aux autres et à soi-même que ces personnages existent. C'est une sorte, c'est un geste d'élévation, un petit peu comme dans les tragédies antiques, essentiellement comme dans les tragédies romaines, le héros qui devenait criminel était celui qui parvenait finalement à échapper à un système coercitif, à un système qui l'emprisonnait. Alors, il y a de cela, de façon donc très radicale, chez le Clésio. Et alors, il faut aussi, me semble-t-il, par-delà le côté provocateur de ces thèmes, voir en eux une certaine projection symbolique de soi-même en tant que jeune écrivain. On a souvent dit, ce sont des critiques, des théoriciens de la littérature, qu'aux différents âges de son histoire, le roman se projetait lui-même, et l'écrivain également, se projetait symboliquement au travers d'un certain type de personnages qui étaient aussi comme des sortes de doubles emblématiques d'eux-mêmes. Par exemple, dans le roman du XVIIIe siècle, le héros un petit peu débrouillard, issu du roman picaresque, qui essaye de s'imposer, renvoie à ce qu'était la position du roman à cette même époque, dans la société du XVIIIe siècle, c'est-à-dire, pour parler familièrement, un genre qui avait le cul entre deux chaises, hein, qui n'était plus tout à fait un genre déprécié, mais qui n'était pas encore le genre parfaitement reconnu. Au XIXe siècle, quel type de personnages, par exemple Balzac ou Maupassant avec Bellamy, vont mettre en scène des personnages d'ambitieux, des personnages d'arrivistes qui s'élèvent au rang dominant de leur société. Il y a comme une sorte de projection symbolique de ce que le genre roman devient selon les critères, selon la hiérarchie des arts de son temps, ou ce qu'il cherche à devenir dans une époque donnée. Au début du XXe siècle, vous avez un certain type de personnage qui fait fortune, qui est le personnage du faux monnayeur, comme dirait Gide, et qui renvoie à cette représentation de l'écrivain comme une espèce de trafiquant d'illusions qui va jouer avec ses propres illusions, hein, qui va tantôt les dénoncer de lui-même, tantôt piéger les lecteurs avec. Alors, par rapport à l'Ecclésio, ce type de personnages qui sont à la fois des êtres de fuite et des criminels, renvoie, me semble-t-il, non pas à des instincts meurtriers de la part de cet écrivain, ça n'est pas du tout ce que je suggère, mais, si vous voulez, à une volonté de fuir, d'une part, un certain nombre de conventions, un certain nombre d'usages fatigués, qui sont ceux du roman. C'est exactement la même volonté qui anime les nouveaux romanciers à la même époque. Et puis aussi, je crois, la volonté iconoclaste, qui est celle des avant-gardes, la volonté de briser les règles, de casser les codes, de transgresser les normes et d'ouvrir une nouvelle page. Donc, cette dimension-là, elle va, je dirais, dans la trilogie des années 70, elle va connaître une sorte de principe d'application encore plus fort, me semble-t-il, parce que plus explicite, c'est-à-dire que la cible de la révolte va être clairement identifiée, il s'agit de la société de consommation, il s'agit de la civilisation issue d'une sorte d'accomplissement techno-scientifique, mais qui se retourne contre l'homme selon la perspective adoptée par l'Ecclésio, qui n'est pas loin d'ailleurs, sur un tout autre registre, d'être celle de Georges Perec dans Les Choses, hein, Les Choses donc qui datent également du début des années 1960. Alors, quels sont les grands motifs de cette révolte de l'Ecclésio d'un point de vue thématique? C'est d'une part l'idée d'une sorte d'urbanisation anarchique, une sorte de prolifération des villes qui n'offre plus un cadre à la fois sécurisant et en même temps dans lequel l'homme puisse se projeter. une sorte de mégalopolitisme, de ville immense qui va en quelque sorte se retourner contre ceux qui la peuplent. C'est aussi donc lié à ce thème, le thème de la désertification de l'humain. Alors, j'emploie le terme de désertification de façon volontaire. On pourrait employer l'expression beaucoup plus simple de déshumanisation, ou d'anonymat. J'emploie l'expression de désertification de l'humain parce que dès ces romans-là, dès les années 1970, il y a une sorte de jeu littéraire avec le motif du désert, qui réapparaîtra plus tardivement et qui montre que finalement, entre la mégapolis que Le Clézio décrit dans La Guerre en 1970 de façon hyper violente et très très polémique, et la représentation qu'il nous propose de Marseille dans Désert, livre que l'on range communément dans sa période plus tempérée, plus poétique, il y a plus que continuité, il y a parenté. Simplement, les deux romans ne jouent pas du même prisme pour traiter un motif et, je dirais, une obsession politique et littéraire qui est la même, et pour mener un combat qui demeure le même. Alors, cette idée de désertification de l'humain, il me semble qu'elle est associée dans ses premiers romans de Le Clézio à un procès que fait Le Clézio à la société moderne, qui est le procès de l'arriération. Derrière la civilisation dite moderne, eh bien, il y a une sorte de part sauvage, de part primitive qui ressort et qui est, et là aussi c'est une idée qui se retrouve dans Désert, qui est finalement peut-être plus inquiétante que la violence des géographies primitives, que la violence des milieux qui sont des milieux non civilisés, non construits, la violence des éléments. Alors, dans ces mêmes romans, de façon très symptomatique, Le Clézio joue avec un certain nombre de motifs qui reviennent et qui ont un petit peu pour fonction d'inscrire dans le roman les termes de ce procès même. Vous avez le motif visuel qui est le motif des néons. Alors, motif qui renvoie au paysage de la ville moderne, mais aussi à l'agression du regard, à la violence, sinon au viol, effectué par le milieu urbain moderne sur l'homme en soi, sur la conscience, par des procédés et par des façons purement sensorielles. Donc le néon, c'est comme une espèce de flash de violence intégré à l'intérieur des descriptions de la ville moderne. Vous avez aussi l'équivalent qui revient, l'équivalent sonore, l'équivalent acoustique, chez Le Clézio, qui sont les sirènes. Il y a une sorte de balancement entre ces deux motifs qui conditionne la représentation de la violence sans nécessairement la nommer en tant que telle, mais qui la fait éprouver. Et puis, vous avez aussi une image, alors qui, dans La Guerre, apparaît de façon régulière, dans Les Géants, un petit peu moins, mais qui réapparaît aussi, qui est l'image des insectes pour désigner les hommes. Une sorte, en quelque sorte, de déshumanisation qui ne va pas être décrite en tant que telle, mais qui va être suggéré par une analogie constante entre l'humain et l'insecte. L'humain dans la ville moderne devenant une sorte d'insecte. Alors, il y a aussi, me semble-t-il, une inspiration dans ces livres. Alors, une inspiration que Le Clézio va chercher chez des écrivains, par exemple, comme Orwell ou comme Huxley, c'est-à-dire chez des grands maîtres de la dénonciation des travers, et des travers parfois exagérés, de la civilisation moderne. Et il y a aussi, alors là, de façon totalement volontaire, délibérée, surtout dans les géants, un clin d'œil à Fritz Lang, hein, le cinéaste de Métropolis, puisque la ville d'épouvante qu'il décrit dans cet ouvrage s'appelle Hyperpolis. Hein, c'est pas Métropolis, mais c'est Hyperpolis. Donc, une atmosphère littéraire de ce type qui, et ce serait un autre point que j'aimerais aborder, qui va trouver son équivalent sur le plan de l'écriture elle-même. C'est-à-dire que Le Clésio est un écrivain, un vrai écrivain, c'est-à-dire que ça n'est pas quelqu'un qui fonctionne comme un journaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui va dénoncer un certain nombre d'états de fait de façon, je dirais, descriptive, narrative, élémentaire. C'est quelqu'un qui va inventer un rapport aux formes du récit, un rapport aux formes du roman qui sera en accord avec le côté très violent de sa propre dénonciation. C'est-à-dire qu'il va faire violence aux formes littéraires elles-mêmes et aux formes du récit. Il va, en quelque sorte, essayer de les casser ou de les transgresser de façon très très expérimentale pour susciter un choc de lecture, hein, pour susciter en quelque sorte une violence qui serait presque comparable à lecture pour un lecteur qui n'est pas familier des avant-gardes, un choc qui serait l'équivalent des sévices que le monde moderne peut finalement lui imposer. Alors, c'est dans ce travail-là que Le Clésio est très proche donc, de ce que l'on appelle aujourd'hui, parfois avec soulagement, parfois avec nostalgie, les dernières avant-gardes, tout en sachant bien sûr qu'en littérature, il faut se garder de jouer les prophètes, parce que ce sont les dernières jusqu'à ce jour, et encore peut-être pas, elles prennent sans doute d'autres formes, mais en tout cas les dernières avant-gardes, identifiées comme telles dans les anthologies, le nouveau roman tel quel. Le Clésio, dans son travail, va être très très proche d'elles. Alors, j'aimerais ici les identifier ce travail. C'est un petit peu le travail des 4D. Les 4D, je vous préviens tout de suite, ça fait très mal à entendre, parce que c'est à la fois un petit peu du jargon universitaire et du cri qui tue. Mais une fois qu'on a expliqué, une fois qu'on a décrit, d'abord ça soulage, et puis ça peut être utile, et puis surtout ça ouvre des pistes qu'on aura l'occasion de retrouver à la fin de l'année, quand on travaillera sur un autre écrivain qui lui aussi apparaît, commence à écrire dans ces mêmes années, qui lui aussi campe sur des positions très radicales, mais qui ne va jamais, lui, les quitter. Il s'agit de Pierre Guyotat. Alors, ces 4D, c'est, alors je les cite d'abord, d'une part la déréalisation du roman. Ensuite, la défictionnalisation du récit, puis la dénarrativisation du texte, enfin la désémantisation de l'œuvre. Je vous avais prévenu. Alors, je garde quelques cartouches encore bien chargées que je ne vais pas faire partir tout de suite parce qu'en fait, ces 4D sont 5, voire 7, mais uniquement si vous êtes bien sage. Alors, déréalisation du roman. Le travail de Le Clésio, c'est finalement de présenter à cette époque des romans qui vont complètement saper, qui vont complètement flouer les grands repères qui sont les nôtres quand on construit certaines images de la réalité. Entre autres, je ne vais peut-être pas le détailler parce que Annie Rouxel vous en a parlé pour le livre des fuites la semaine dernière, c'est le jeu d'embrouillement absolu de l'espace et du temps. Ces deux vecteurs de la logique traditionnelle qui nous permettent de construire une représentation de ce qu'on appelle communément le réel, eh bien, Leclésio et les écrivains proches du nouveau roman vont s'amuser à les superposer, à les enchaîner, à faire en sorte que finalement ce soit des espaces et des temps complètement vides à force d'être comblés et complètement inopérants d'un point de vue logique à force de se percuter. D'où cette impression que nous avons quand nous lisons par exemple le livre des fuites d'être nous-mêmes complètement plongés dans une sorte d'univers dont on reconnaît des bribes mais sans pouvoir l'appréhender et surtout qui n'offre plus aucune stabilité. Donc des réalisations du roman. Également ce travail qui est celui de la défictionnalisation du récit. Défictionnalisation du récit, tout ce qui, dans le texte écrit, va être trop visiblement romanesque, sera en quelque sorte désactivé par l'écrivain, par les écrivains eux-mêmes. Ce sont, par exemple, dans le livre des fuites, les autocommentaires, qui introduisent une distance face à l'illusion romanesque, déjà bien malmenée, et qui font que les réflexes qui seront les nôtres en tant que lecteurs ne seront plus les mêmes que ceux stimulés par un roman, disons, plus classique. Avec, donc, aussi, proche de certaines tentatives du nouveau roman alors, une volonté de mettre à mal ce qui est considéré comme la vieillerie romanesque, à savoir le personnage, au sens qu'il serait doté d'un profil physique et d'un état civil bien identifiable, au sens aussi de l'action, en cela qu'elle enchaînerait un certain nombre d'événements selon un ordre à la fois logique et chronologique. Alors, autre dé, c'est la dénarrativisation du texte proposé au lecteur, à savoir un faux récit qui est totalement caviardé par des passages qui relèvent tantôt de la poésie, tantôt de la réflexion plus abstraite, tantôt de l'adjonction d'un certain nombre d'éléments graphie ou typographique qui s'accumulent, qui s'entremêlent et qui font que le récit lui-même, la narration, sont dilués à l'intérieur d'un texte qui va jouer sur d'autres ressorts. On est véritablement là dans le cadre d'une manipulation expérimentale de l'écriture. Alors, le tout aboutit à une désémantisation de l'œuvre, c'est-à-dire que le rapport au sens même du texte va être un rapport très litigieux. Le sens de l'œuvre va être flottant. Le sens de l'œuvre va être non plus encadré, non plus dirigé, mais en quelque sorte il va se créer, se générer de lui-même selon différents régimes compatibles entre eux. Alors, c'est un leurre de croire, même quand on a à l'esprit des œuvres de littérature classique, c'est un leurre de croire que l'écrivain est totalement maître du sens de son œuvre, y compris dans le cadre d'une littérature beaucoup plus classique. Toutefois, il y a un rapport au désir de sens, un rapport à la volonté de faire sens qui passe, dans la littérature romanesque classique, par un certain nombre de stratégies d'écriture qui visent à canaliser ce sens. Eh bien, c'est justement ce que l'Ecclésio rejette, ce que l'Ecclésio et un certain nombre d'autres écrivains vont tenter de faire imploser. Il y a à peu près à la même époque une notion que propose Roland Barthes. Roland Barthes aimait beaucoup les néologismes et il emploie la notion de signifiance. La signifiance et non pas le sens d'une œuvre. Barthes était un grand commentateur des modernes, non pas de l'Ecclésio, mais de Solers, par exemple, dans ces années 60-70. Alors, la signifiance pour Barthes, c'est un livre qui fait sens, mais de façon plurielle, de façon confuse, et qui laisse, en quelque sorte, une part de liberté au lecteur pour composer délibérément le sens du livre ou différentes strates de sens. Donc, la signifiance, c'est un livre qui fait sens par onde ou par radiation successive à lecture. Alors, ces 4 D qui définissent en quelque sorte le travail expérimental de ces années 60-70, elles aboutissent, je vous l'ai dit, à un cinquième. Cette fois-ci, c'est une notion que j'emprunte à Pascal Quignard. C'est ce que Pascal Quignard, qui a débuté lui aussi en 1969 dans ces milieux très marqués par un désir d'expérimentation formelle, c'est ce que Pascal Quignard appelle la déprogrammation de la littérature. La déprogrammation de la littérature. Alors, il me semble que cette notion, on peut la comprendre de deux façons. La littérature efface d'elle-même son propre programme en mode interne, en mode interne, c'est-à-dire ses propres règles, ses propres codes, et elle essaie finalement d'inventer autre chose. Et puis on peut le comprendre aussi, on peut la comprendre cette notion de déprogrammation en termes plus culturels. La littérature finalement refuse, tente de refuser de se laisser programmer pour accomplir telle ou telle fonction. C'est-à-dire que elle décide d'aller agir ailleurs que là où on l'attend. Il me semble qu'on peut aussi, sans extrapoler davantage, rassurez-vous, on va passer à un exemple rapide après, il me semble que ces notions-là, ce travail expérimental qui vise finalement à répondre à ce qui est considéré comme une violence de la civilisation par une violence qui serait celle de la littérature elle-même en tant que combative, mais combative avec ses propres ressources et ses propres armes, il me semble qu'on a on en a des échos aussi dans le champ philosophique, avec à peu près à cette même époque ce que Jacques Derrida, que je citais tout à l'heure, met en place philosophiquement sous la notion de déconstruction. Le déconstructionnisme, c'est pareillement essayer de défaire un certain nombre de systèmes anciens qui, peut-être, n'ont plus grand-chose à apporter en tant que cadre. Et puis, cette notion de déterritorialisation autour de laquelle Gilles Deleuze tourne aussi à la même époque. Et dans cette notion de déterritorialisation, il y a quelque chose qui est très très proche de ce déracinement, de cette mobilité fébrile qui anime les personnages de l'Ecclésio dans la première partie de son œuvre, du moins. Alors, l'exemple que l'on peut donner pour conclure cette première série de remarques serait finalement l'exemple du procès-verbal. Alors, le procès-verbal, j'ai relevé dans l'avant-propos la façon très laconique qu'a l'Ecclésio de réduire l'histoire du procès-verbal, l'histoire d'un homme qui ne savait pas trop s'il sortait de l'armée ou de l'asile. côté libertaire est quand même très affirmé. Le personnage Adam Polo, sans résumer l'ouvrage, c'est quelqu'un qui habite de façon un petit peu illicite une maison dans le sud, qui écrit son journal, qui rencontre un certain nombre de personnes, qui connaît des moments d'extase. Alors, des moments d'extase qui procèdent en fait d'une sorte de fusion mystique avec la matière. Et là, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça, c'est déjà dans le premier roman de L'Occlésio, 1963. Et un petit peu plus tard, il y a une sorte d'essai poétique qu'il publiera qui s'appellera L'extase matérielle. Et il y a vraiment une sorte de principe de continuité de l'un à l'autre. Et pas cette rupture qu'on attribue parfois à son œuvre de façon exagérée. Alors, cet Adam, ce personnage, c'est un personnage qui finalement lutte contre le sentiment de sa propre aliénation par une civilisation qui lui est contraire, qui lui est adverse, par rapport à laquelle il va s'affirmer exclusivement en répétant ce qui est le geste de ce héros de l'Antiquité, Hérostrate, hein, celui qui tue les autres pour les convaincre d'une manière très expéditive qu'il existe lui-même. Adam, lui, va commettre un viol, va vivre sa folie, va être interné. C'est en quelque sorte cet itinéraire-là que L'Occlésio nous propose dans le procès verbal. Alors comment il nous le propose ? Eh bien justement en mettant en pièces, à tous les sens du terme, en mettant en pièces l'écriture romanesque traditionnelle. C'est-à-dire que le narrateur de cette histoire, dont on ne sait pas d'ailleurs qui il est, hein, ce narrateur inconnu rassemble un certain nombre de pièces qui sont incomplets, qui sont lacunaires et qui visent à reconstituer le parcours, l'itinéraire même du personnage d'Adam. Alors on est face à une sorte de narration complètement morcelée avec d'un point de vue formel, donc des passages de récit, des passages d'un journal intime du héros retrouvé, des lettres, les notes d'un examen psychiatrique que le héros a subi. Bref, vous voyez, l'ouverture du sens même du livre résulte des multiples pièces de cette énonciation. On ne sait pas qui parle et on est confronté à des états de texte complètement hétéroclites et plongés donc dans une atmosphère elle-même qui fuit le sens, hein, et qui obstrue toute lisibilité immédiate. Ce qui fait que finalement, le procès-verbal, on peut le lire au moins, et la critique ne s'est pas gênée pour le faire, on peut le lire au moins de trois façons. C'est presque trois romans qui se surimpriment selon finalement le fil conducteur que l'on privilégie. C'est tout d'abord une sorte de récit, on peut le lire comme un récit de la folie, hein, une sorte de hors-là des temps modernes, hein, je fais référence à la nouvelle de Maupassant. Bon, il y a toute une tradition comme ça des récits cliniques écrits depuis la folie même de leur personnage. On peut lire ce texte en adoptant cette perspective. On peut aussi voir dans ce livre une sorte de récit totalement orienté, totalement partisan du devenir humain. Hein, c'est une humanité qui sombre dans la folie en raison du monde, de la société qu'elle est en train d'inventer. Hein. Alors, la critique a remarqué que, et bon, entre nous, pour ne pas le remarquer, il fallait quand même nous aider sacrément, que le prénom du personnage était Adam, et que donc ça rappelait quelqu'un, et qu'il pouvait y avoir, et cette idée d'une genèse, mais d'une genèse à l'envers, hein, d'une genèse qui serait encore pire que la première, somme toute. Parce que ce ne serait même pas un paradis qui serait perdu, ce serait d'emblée un enfer. Alors, c'est une lecture que l'on a pu faire aussi de ce livre, et puis vous avez une autre lecture qu'on a pu faire communément, qui est une lecture beaucoup plus structuraliste, comme on disait à cette époque, c'est-à-dire un livre qui met en scène les possibles, les infinis possibles de la littérature elle-même. En cela que la littérature ferait avec à la fois un principe d'affabulation, de mythomanie, et qu'elle est peut-être la voie autorisée du délire aussi. Donc il y a, vous voyez, ce que Barthes appelle la signifiance, une sorte d'éventail de lectures qui résulte des dispositifs formels et de l'esthétique éclatée qu'adopte le Clésio. Alors, un autre élément sur lequel j'aimerais insister, parce que on n'y insiste pas nécessairement beaucoup, sauf certains critiques, je pense entre autres à un critique universitaire qui s'appelle Bruno Thibault, et qui a travaillé sur cela, c'est-à-dire sur le fait que le Leclésio novateur, le Leclésio expérimentateur des débuts, est aussi dans un dialogue permanent avec ce qui se fait dans le champ des arts plastiques, ou dans un certain champ des arts plastiques, dans ces mêmes années. Entre autres, ce que l'on appelle parfois l'école de Nice, avec des plasticiens comme Armand, comme Yves Klein, ou encore comme Martial Reiss. Il y a effectivement, quand on lit ces premiers livres de Modiano, l'emprunt de certaines techniques qui sont très proches du pop art. Avec, par exemple, dans le roman qui s'appelle La guerre, l'utilisation de descriptions de produits que l'on peut trouver dans des grandes surfaces. Avec, dans Les Géants, l'usage de photographies de supermarchés. Enfin, de rayonnage, pardon, de supermarché, avec aussi tout un montage dans le texte d'échantillons, alors empruntés à la fois à des slogans publicitaires, à des fiches de ce qui commençait à être à l'époque le marketing, et aussi des formules ou des expressions qui renvoient presque, enfin qui renvoient, pas presque, qui renvoient à, au langage informatique. Donc il y a ici une sorte de collage à même le texte de certains éléments qui sont empruntés à la langue et aux images même de cet univers moderne dénoncé. Et on a là une sorte presque de parallèle qu'on peut établir entre l'accumulation des produits, l'accumulation des produits en série, tels qu'on peut les trouver dans certaines compositions plasticiennes à cette époque, dans le but de dénoncer ce qui est finalement le consumérisme de cette société en train de s'installer, la société de consommation. Alors, il y a quelque chose qui serait presque warholien, la parenté, je vous l'accorderai, entre le Clésio et Warhol est un peu tirée par les cheveux, mais, pour ça que je me permets de souligner son côté, mais en même temps, il y a de cela. Il y a la volonté de dénoncer le consumérisme en empruntant une technique qui emprunte à la promotion de la consommation elle-même, dans les premiers ouvrages du moins. Alors, à côté de ça, il y a aussi des procédures expérimentales, je dirais, beaucoup plus classiques, est beaucoup plus breveté littérairement, si l'on peut dire, entre autres l'usage de calligrammes à l'intérieur des textes, ou une certaine façon de jouer avec la typographie, par exemple en variant la police, c'est-à-dire en créant des espèces de lignes de fuite typographiques à l'intérieur même de la page. Bref, si vous voulez, en faisant de la page non pas simplement un lieu où un récit est raconté, mais un lieu qui va s'adresser au regard et donc qui va essayer non pas d'agresser, mais de stimuler de façon sensible la lecture, hein, de provoquer, voilà, c'est le terme que je cherchais, de provoquer sur un plan sensible le lecteur, indépendamment même de toute forme de dénonciation beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus cérébrale, beaucoup plus directe. Et alors ça me semble important. Pourquoi ? Parce que on va retrouver cela après, lorsque Le Clésio va aborder les choses de façon plus sereine, plus calme, cette volonté de toucher le sensible autant que le cérébral va s'affirmer, mais va s'affirmer dans toutes les œuvres ultérieures au travers essentiellement d'un travail sur les rythmes, sur la musique, sur les répétitions, sur le côté très cyclique de son écriture. Une écriture qui va être parfois très proche dans ses ressorts de celle de la chanson, avec des mots qui reviennent comme un refrain, avec des temps de pause, avec des temps d'emballement. Mais c'est, si vous voulez, la même volonté d'impliquer le lecteur, d'abord en le provoquant, pendant, à l'époque des débuts, et ensuite en tentant de le séduire, en tentant de l'envoûter. Alors, c'est le passage dans l'œuvre, l'évolution, va se faire au milieu des années 70. Alors, passage qui serait celui d'une écriture panique, hein, l'écriture panique des débuts, à une écriture plus pacifiée. Et avec un certain nombre d'expériences que Le Clésio va connaître, alors qu'il avait déjà en partie connues, mais qui vont s'affirmer de façon beaucoup plus forte. Alors, Le Clésio, homme des lisières, comme on le disait, c'est quelqu'un qui, d'emblée, n'a jamais été l'homme d'un pays. Hein. Il a la double nationalité franco-britannique. On connaît l'histoire de sa 8e année, hein, où il va vivre pendant un an au Nigeria avec sa mère pour essayer de retrouver un père qu'il ne connaît pas. Donc il y a une sorte de principe de nomadisme qui est, je dirais, structurant de sa personnalité et qui, dans le milieu des années 60-70, va s'accentuer et qui va avoir des répercussions sur son rapport à l'écriture. C'est-à-dire qu'il va être coopérant au Mexique, hein, en 1966. Alors, d'ailleurs, ça aussi, ça fait partie, c'est pas simplement une anecdote, mais c'est, me semble-t-il, intéressant de le rappeler. Avant d'arriver au Mexique, cette terre qui va compter tant pour lui, il va, en tant que coopérant, passer plusieurs mois à Bangkok et il va en être éconduit, en termes diplomatiques, parce qu'il aura le mauvais goût de s'ériger contre ce qui n'est pas du tout considéré à l'époque comme un scandale, mais comme une pratique, à savoir la prostitution enfantine. Il dénonce de façon assez violente ce phénomène-là et ça lui vaut bien sûr quelques ennuis avec les autorités. C'est comme cela qu'il découvre qu'il se retrouve au Mexique et qu'il va y avoir un certain nombre de choses qui vont se convertir en lui dans son rapport même à la création. Il y a un an, j'avais employé l'image pour distinguer les différents rythmes de la modernité, de l'écrivain casseur et de l'écrivain passeur. Hein, non pas pour les opposer, mais pour les distinguer. Eh bien, Le Clésio devient en quelque sorte un écrivain passeur, hein, après avoir finalement été un écrivain casseur. Alors, un écrivain passeur entre deux univers, deux mondes, le monde occidental et le monde amérindien, un écrivain passeur aussi, d'un point de vue littéraire, tout ce qu'il a essayé de faire sur un plan expérimental, il va le poursuivre, on va le retrouver, mais avec donc un autre prisme. C'est-à-dire que le refus, le rejet d'une civilisation européenne, française, qui était la sienne, va en quelque sorte se transformer en attraction pour une civilisation autre, et radicalement autre. Il n'y a pas opposition, il y a continuité et changement de registre. De même, ce qui était dans ses premiers romans, la dénonciation d'une civilisation artificielle, les néons par exemple, va se transformer en une sorte d'attraction poétique pour la nature. Alors, une nature qui n'a rien d'idyllique, qui n'a rien de post-romantique, comme on a pu parfois le dire, mais une nature qui est une sorte d'élément premier, redoutable, celui qu'on nous décrit dans Désert, avec ces éléments qui corrodent l'humain, mais qui en même temps, finalement, l'inclut dans un cycle moins aliénant, même s'il est violent, que celui de la civilisation moderne. Il y a, si vous voulez, cette modification-là qui s'effectue aussi. Il y a aussi, me semble-t-il, face à une sorte de principe de réalité contre lequel l'écrivain ne peut lutter qu'avec des mots qui, si violents soient-ils, ne peuvent pas le transformer radicalement, ne peuvent que finalement modifier l'approche que l'on en a. Face à ce principe de réalité historique, face à cette modernité de la fin du XXe siècle, que l'écrivain, fût-il avant-gardiste, ne peut pas modifier, il y a, me semble-t-il, chez l'écrivain avant-gardiste, un pari sur l'avenir. Ce ne sont pas les lendemains qui chantent, mais c'est l'idée que, finalement, l'écrivain, l'artiste, peut contribuer à faire naître un monde radicalement autre. Eh bien, c'est un peu aussi cette croyance, cette mythologie, cette idéologie-là, qui vacille un peu dans les années 1970, 1975, 1980. Alors, face à ce qui s'apparente à un désenchantement, il y a chez le Clésio le pari d'opposer à ce principe de réalité historique ce qui serait une sorte de réalité reconstruite exclusivement par les mythes. Il y a la carte du mythe qui va être jouée finalement comme alternative à celle d'une réalité historique qui s'impose. Donc on est face à certaines problématiques qui vont apparaître à partir donc de certains ouvrages et qui vont être développés, alors bien sûr dans Onitska, dans Nietzsche en 1991, que continue Étoile errante, un an plus tard, dans Le chercheur d'or également, dans Désert, dans Poisson d'or aussi, qui date de 1997, dans La quarantaine aussi, qui est cette espèce de superbe roman de son propre grand-père qu'il écrit, et dans lesquels Le Clésio va mettre en scène des mondes pensés comme vierges, un rapport au temps qui est lui-même mythique parce que perdu, une sorte de passé de pur imaginaire, et il va y avoir aussi l'apparition de tout un paysage avec lequel Le Clésio va jouer poétiquement. Un paysage qui va être celui des éléments primordiaux, alors la lumière et la poussière, par exemple. Un paysage qui va être celui placé sous le signe de la pierre ou de la roche, qui sont chez Le Clésio des éléments de fascination très ambigus.
C'est-à-dire qu'ils sont à la fois très attirants parce que liés à une durée, liés à une immobilité, et qu'ils sont l'exacte antithèse de l'éphémère et de l'agitation du monde moderne. Ils fonctionnent comme motif antithétique à ce principe de réalité que j'évoquais, mais en même temps, des éléments fascinants parce qu'inquiétants. C'est-à-dire qu'au contact de ces éléments, c'est non pas... Les idées poétiques qu'il développe dans l'extase matérielle. Au contact de ces éléments minéraux, c'est finalement non pas le néant, non pas le vide auquel l'homme est confronté dans sa méditation, c'est le non-être, ou le non-étant. C'est aussi cette fascination pour le désert comme géographie qui fait l'économie de l'être humain. Et comment finalement, quand on se les approprie de façon méditative et poétique, ce qu'il y a d'attirant dans ce type de motif naturel, c'est qu'ils sont une remise en cause de l'être lui-même, de l'être. Et donc, il y a cette espèce de fascination ambiguë avec laquelle il joue très bien. J'insiste sur cette ambiguïté parce qu'il me semble qu'il y a une certaine façon de lire le Clésio comme un écrivain un petit peu idyllique, une sorte de Bernardin de Saint-Pierre de la fin du XXe siècle, et il n'est pas cela du tout, du moins selon la lecture que j'en fais. Mais peut-être que je soulève les mauvaises pierres et bouge les mauvaises roches. Et puis, il y a aussi cette fascination qu'il éprouve pour les vallées, pour les monts, pour les dunes elles-mêmes, c'est-à-dire des personnages... vous voyez comment on n'échappe pas à l'humanisation de tout, hein, les personnages. Les paysages qui permettent de prendre un surplomb, une élévation et une force ascensionnelle certaine. Alors, bien sûr, on peut parler parfois d'un certain mysticisme dans cette œuvre. Mais c'est, me semble-t-il, un mysticisme qui est très prudent dans l'usage qu'il fait de la figure de Dieu. Ce serait davantage une certaine façon de s'acheminer vers la question du sacré, mais le sacré en tant que tel, c'est-à-dire le sacré en tant qu'il serait un principe de transcendance dépassant la figure humaine, y compris dans les propres images humaines de cette figure du sacré, c'est-à-dire Dieu. Dieu en tant qu'hyperbole de l'homme, Dieu en tant que visage du sacré inventé par l'homme à sa propre image, c'est cela que ne cautionne pas le Clésio. Si l'on regarde bien dans Désert, il y a, à plusieurs reprises, une référence à la figure du Créateur, à la figure de Dieu. Mais elle est toujours tenue à distance, ou bien sous forme de citation, ou bien intégrée dans le récit second et les lieux infinis. L'immensité. L'immensité, c'est aussi le titre d'un roman de Sylvie Germain. Alors, sauf que Sylvie Germain, elle, réintroduit de la divinité, de façon plus explicite, là où le Clésio la suspend. Mais vous avez cette fascination pour une sorte d'espace-temps totalement illimité, et donc fascinant parce que mystérieux, parce que énigmatique, que seule une parole qui se rapproche du mythe, peut essayer d'approcher en la cryptant. Alors, ce sont sur ces ressorts-là que joue le Clésio, et en même temps, ces romans-là nous parlent toujours de notre temps et de notre monde, de façon beaucoup moins violente que dans ses premiers ouvrages, mais si l'on prend l'un de ses derniers romans, Urania. C'est un roman tout à fait intéressant. Pourquoi ? Parce que Alors, il se présente comme le récit d'un personnage qui revient sur l'expérience mexicaine qui va être la sienne. Il va être envoyé, donc, en tant que jeune géographe sur des terres mexicaines et il va découvrir, à sa grande surprise, deux systèmes utopiques, deux utopies. C'est-à-dire, au sens que Thomas More donnait, le fondateur de la notion du système utopique donnait à ce terme, deux systèmes qui, en huis clos, essaient d'accomplir un mode de vie idéal. Alors, la première de ces utopies, et vous comprendrez pourquoi je parle de ce roman-là, je suis très très sensible, nous sommes tous très sensibles à cette utopie-là, c'est une utopie qui est une université populaire. Alors quand même, ça méritait d'être cité. C'est une utopie qui est placée sous le signe de l'humanisme, d'un néo-humanisme. Une utopie, donc, un système dans lequel les membres qui acceptent de vivre à l'intérieur de ce système et de cette communauté, donc, recherchent à inventer un certain nombre de valeurs, d'idées, de modes de relations qui seraient des idées totalement humanistes, mais transposées donc à notre époque. Et puis, il y a un deuxième système, une deuxième utopie, qui, elle, est une utopie libertaire. C'est une utopie, un système dans lequel la famille est supprimée, la sexualité est libre, les enfants sont élevés par le groupe, il n'y a pas une seule langue, mais il y a une sorte de langue inédite à la lettre de langue inouïe, de langue qui n'a jamais été entendue par personne et qui est un mélange de différents types de paroles. Bref, il y a un autre mode de vie idéal possible. Et le héros va passer à la fois par l'une et l'autre de ces utopies. Il va assister à l'échec et de l'une, l'utopie humaniste, et de l'autre, l'utopie libertaire. Il va revenir en France et il va enseigner l'histoire-géographie dans un collège de Normandie et faire le récit qu'il propose à notre lecture. Alors, c'est un très, très, très beau roman. Très beau roman qui interroge, bien sûr, notre temps, cette fameuse défaite des utopies, ce fameux désenchantement qui serait propre à notre époque. Mais c'est aussi un roman qui, en lui-même, reflète, réfléchit, en quelque sorte, le parcours de l'Ecclésio lui-même. À savoir, à la fois, cette volonté très utopique d'inventer une écriture qui serait totalement libertaire au début, et puis une sorte d'évolution qui serait plus humaniste ensuite. Et l'on peut se demander finalement si ce roman-là n'est pas aussi, pour l'auteur, une certaine façon de faire le bilan, donc de relancer sa propre inspiration. Alors, pour conclure, j'aimerais donner la parole à Jean-Marie Gustave Leclésio. Il n'est pas là. Mais j'ai trouvé cet extrait d'un entretien qui, justement, date de la parution d'Urania, qui est donc un des derniers entretiens qu'il a pu donner au Nouvel Observateur. Le Mexique d'aujourd'hui, c'est vrai. Alors, je vous le lis parce que, me semble-t-il, il y a à la fois dans cette déclaration une position d'écrivain qui est assumée et une réflexion indirecte sur la littérature et sur ce que l'on pourrait appeler sa modeste grandeur. Le Mexique d'aujourd'hui, c'est vrai, n'a plus rien à voir avec celui de Soustelle, de même que le Darién panaméen, alors c'est l'endroit où Leclésio a vécu pendant 4 ans, contact de tribus, de même, le Darién panaméen est devenu, selon Lonely Planet, l'endroit le plus dangereux du monde. Le responsable n'est pas nécessairement le Goliath nord-américain. Il a plusieurs visages. C'est aussi la mondialisation, la diffusion des images et des idées reçues, l'intolérance intellectuelle, l'intégrisme, l'insolence d'un certain libéralisme qui ne tient pas compte des minorités, les usines offshore, l'affirmation de la supériorité de l'investissement sur les nécessités humaines, l'hypocrisie des superpuissances mondiales qui proclament urbi et orbi leur nouveau code éthico-écologique en maintenant les 9/10 de la planète sous tutelle, reste pourtant tout ce qui fait la force et la beauté de ce continent, sa jeunesse, la force des liens sociaux, le savoir-vivre, le grand raffinement des sociétés rurales, cette permanence du monde indien comme un ferment d'espoir et sa littérature qui est si belle. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si on a le temps, je me retourne vers Thérèse pour quelques questions. Oui ? Alors, quelques questions, s'il y en a.
Merci, je me pose une question naïve peut-être. C'est sur la problématique des 4D, enfin des deux premières surtout.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre la déréalisation...
Ah, ça demande de l'entraînement.
et la défictionalisation. Ça me paraît un peu paradoxal, mais vous pouvez peut-être nous préciser, nous expliquer ça.
Oui, oui. Alors, il y aurait... Votre réserve serait que finalement, quand on déréalise quelque chose, forcément, on accrédite la fiction. Alors, j'ai été sans doute trop rapide dans mes explications. La déréalisation, c'est en quelque sorte effacer tout ce qui, dans un roman, pourrait relever des codes de la littérature, d'une littérature figurative. Tout ce qui pourrait être portrait, psychologie, description, tout ce qui vise à créer un effet de réel. Et c'est en même temps nous plonger dans une sorte d'état de l'entre-deux. La défictionnalisation ne s'oppose pas à la déréalisation. Pourquoi ? Parce que la fiction peut très bien être un moyen de représenter un élément ou plusieurs éléments de la réalité. La fiction, c'est aussi l'illusion de faire croire que ce qui n'est que mot, finalement, est réel. Alors, c'est en ce sens que les deux ne s'opposent pas. C'est l'idée d'une fiction qui serait une fiction réaliste, une fiction figurative. C'est la conception en littérature classique de la fiction, à savoir faire comme si. La fiction comme simulation de la réalité, au point qu'à lecture, une sorte d'illusion réaliste se crée et que l'on perd plus ou moins de vue la situation littéraire elle-même, qui est que tout est inventé. Vous voyez ? C'est en cela qu'il n'y a pas contradiction entre des réalisations et des fictionnalisations. Alors, et ça entre en écho, me semble-t-il, avec un certain nombre de pages que l'on trouve dans le recueil d'articles d'Alain Rebriet, publié sous le titre « Pour un nouveau roman ». Hein, il y a un certain nombre d'éléments qui s'en rapprochent. Bien, bonne soirée à tous.